France Inter.
Il est 23h et vous écoutez France Inter. Tout de suite, l'information, le journal avec Luc Chemla. Bonsoir Luc.
Bonsoir, bonsoir à tous. Un plan d'urgence pour sauver les EHPAD face à la crise financière de nombreux établissements. Une enveloppe de 650 millions d'euros est débloquée par le gouvernement. Tous les détails dès le début de ce journal. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Elle va devoir s'expliquer après un communiqué de son groupe parlementaire sur les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. Après la découverte de fosses communes dans les deux principaux hôpitaux de la bande de Gaza, l'ONU demande aujourd'hui des enquêtes internationales indépendantes. Nous serons également à Vimereux, dans le Pas-de-Calais, où l'émotion est encore vive après la mort tôt ce matin de 5 migrants alors qu'ils tentaient de traverser la Manche. Et puis après avoir épaté l'Europe, c'est maintenant aux États-Unis qu'il va montrer l'étendue de son talent. Le footballeur Olivier Giroud s'est mis d'accord avec le club de Los Angeles.
France Inter.
85% des EHPAD publics sont en déficit. Triste constat fait récemment lors d'une étude de la Fédération hospitalière de France. Des établissements dans le privé, également au bord de l'asphyxie et menacés pour certains de disparition. En cause, l'explosion des coûts de l'alimentaire, de l'énergie, la hausse des salaires aussi. Vous l'aurez compris, la situation est alarmante. Alors, aux grands mots, les grands remèdes, le gouvernement débloque une enveloppe de 650 millions d'euros, Alice Cachaner.
Oui, les dotations de l'État vont augmenter de 5% dans les EHPAD publics, 5% dans l'associatif et 3% dans les établissements commerciaux. Une bouée de sauvetage très attendue alors que de nombreux établissements sont dans le rouge. Détaille Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées.
Dans les EHPAD publics, ce sera plus de 5%, un vrai ballon d'oxygène. Et pour le privé, c'est 3% parce que le privé, ils ont la possibilité de moduler les tarifs hébergement en fonction des ressources des personnes, ce que ne peut pas faire le public aujourd'hui.
Mais augmenter les dépenses de l'État, eh bien, ça ne fera pas tout. Aujourd'hui, le financement d'une place en EHPAD provient de 3 sources. L'État finance uniquement les soins médicaux, le salaire des infirmières, des aides-soignants, les médicaments, la partie hébergement. Les repas, la chambre est à la charge des résidents. Restent les départements qui financent les frais liés à la dépendance des personnes âgées. La balle est donc aussi dans leur camp, affirme la ministre.
Je pense que chacun doit prendre sa part de responsabilité. L'État, bien sûr, est aux côtés des EHPAD. Après, bien sûr, les départements doivent prendre aussi la leur.
Au-delà de ce nouveau plan d'urgence, le gouvernement réfléchit à une simplification de la tarification des EHPAD, une réforme structurelle, un nouveau modèle de gouvernance où l'État prendrait en charge à la fois les sections soins et dépendance. Une expérimentation doit avoir lieu prochainement dans une dizaine de départements volontaires.
Et hier, 13 organisations du secteur du grand âge public et associatif avaient tiré la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation. C'était attendu, ça se confirme, journée noire en perspective jeudi dans les aéroports. Les compagnies aériennes vont devoir annuler 75% des vols à Orly, 65% à Roissy ainsi qu'à Marseille, 60% à Toulouse et Nice. Conséquence d'une grève des contrôleurs aériens, un nouveau préavis a également été déposé pour le pont de l'Assomption les 9, 10 et 11 mai. Jean-Luc Mélenchon dénonce un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. La chef des députés insoumis, Mathilde Panot, est convoquée par la police pour apologie du terrorisme, conséquence d'un communiqué du groupe parlementaire publié le 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas contre Israël. Attaque décrite alors comme une offensive armée de forces palestiniennes. Pour l'ancien candidat à la présidentielle, cette décision montre une volonté de, je cite, protéger un génocide à Gaza. Mais pourquoi une telle convocation ? Eh bien, réponse avec Ariane Grissel.
Alors, l'objectif est de déterminer dans quel contexte ont été tenus les propos imputés à Mathilde Panot, quelle était l'intention derrière, leur portée. Elle ne sait pas précisément de quoi il s'agit. Sa convocation précise que ce sont effectivement des faits du 7 octobre. Oui. Pour le reste, ce n'est qu'une déduction, le fait que ce soit lié au conflit israélo-palestinien. Donc, l'objectif, une fois que tous ces éléments de contexte ont été recueillis, c'est de voir si les critères de l'apologie du terrorisme sont réunis, c'est-à-dire que ceux dont la personne fait l'apologie soient considérés comme des faits terroristes, logique, que les propos aient été tenus à l'intention d'un public et qu'ils portent un jugement favorable aux faits ou auteurs des faits en question et qu'ils mettent victime et auteur sur le même plan. À l'issue de cette audition, le parquet décide, un classement sans suite ou des poursuites, puisque, on le rappelle, ce n'est pas parce que vous êtes entendu pour apologie du terrorisme que vous êtes jugé coupable d'apologie. Ici, il n'a pas été précisé à Mathilde Panot qui ou quelle association était à l'origine de la plainte qui l'a conduit devant la police judiciaire. Mais chaque signalement de ce type donne lieu à une enquête.
Et Mathilde Panot a réagi dans un communiqué. Elle s'inquiète de cette instrumentalisation grave de la justice visant, selon elle, à bâillonner des expressions politiques. De son côté, le RN s'indigne aussi, mais pour une autre affaire. Le numéro 3 de sa liste aux élections européennes est visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture. Deux associations reprochent à Fabrice Leggeri d'avoir activement facilité les refoulements illégaux de bateaux de migrants lorsqu'il était à la tête de l'agence européenne Frontex. Marine Le Pen dénonce un harcèlement judiciaire mené par les associations d'extrême gauche. Direction désormais le Pas-de-Calais où l'émotion est encore vive. À Vimereux, au large de cette commune près de Boulogne-sur-Mer, un nouveau drame a eu lieu tôt ce matin. Au moins 5 migrants, dont une enfant, sont décédés en mer lors d'une tentative de traversée de la Manche. Ils se trouvaient sur un pneumatique avec à son bord 112 personnes, du jamais vu selon le préfet. Alors que l'embarcation était partie d'une plage et venait de dépasser un banc de sable, son moteur s'est arrêté avant de partir à la dérive. Ce drame intervient alors que 5 migrants sont déjà morts en début d'année, toujours à Vimereux. Sur place, les habitants sont bouleversés, Thomas Chonnerre.
La digue de Vimereux a retrouvé un peu de sa quiétude un peu plus tôt. C'est ici même qu'ont été prises en charge les victimes.
Moi, j'habite juste derrière la digue.
Chloé voit régulièrement des exilés dans les rues. Elle vit ici depuis moins d'un an.
Je vois dans quelle détresse ils sont. Apprenant au réveil que 5 personnes sont décédées, là où je vais possiblement cet été me baigner, bah ouais, ça fait de la peine et c'est une sorte de sentiment en fait.
Ça fait mal au bide.
Edith et Philippe sont en vacances à Vimereux où ils ont un appartement. Ils se posent eux des questions sur la politique qui est menée pour lutter contre les traversées.
Ce qui est écœurant, c'est que rien ne se passe. On arrête d'être aux mains des Anglais. Ils filent du pognon aux Français pour qu'on s'occupe du contrôle de la frontière.
Le maire de la commune, Jean-Luc Dubel, est tout aussi critique vis-à-vis des Britanniques. Il faut, selon lui, mobiliser davantage de forces de l'ordre pour gérer la situation.
On a besoin de bras, on a besoin d'hommes. Là, aujourd'hui, cette nuit, ils ont réussi à attraper 4 ou 5 passeurs. Mais c'est pas suffisant, il y en a bien plus sur le territoire. Il y avait une voiture sur la digue c'est cette nuit. Aujourd'hui, on est en vacances scolaires. C'est pas possible de continuer dans cette situation. On laisse partir des gens à l'abattoir. Et c'est pas logique, c'est pas normal. Et il y en a marre.
Et le maire s'inquiète d'ores et déjà pour les vacances d'été, quand les forces de l'ordre seront mobilisées sur les Jeux Olympiques.
Le reportage de Thomas Chenner de France Bleu Nord. En Afrique, cette fois, au moins 21 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de Djibouti. On compte également 23 disparus, chiffre de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies qui demande aujourd'hui des enquêtes internationales indépendantes, efficaces et transparentes. Demande faite après la découverte de fosses communes dans les deux principaux hôpitaux de la bande de Gaza. Le haut commissaire aux droits de l'homme se dit également horrifié par la destruction de celui d'Al-Shifa à Gaza et du complexe médical Nasser de Khan Younes. D'ailleurs, sur place Thibault Lefebvre, on continue d'exhumer les corps de ces fosses communes.
310 corps exhumés en 4 jours selon la défense civile de Gaza liée au Hamas et les recherches continuent. Sur ces images diffusées ce matin par la chaîne américaine CNN, on voit des bulldozers qui remuent la terre sablonneuse et puis autour des dizaines d'habitants fatigués, éplorés qui cherchent pour certains depuis 2 semaines la dépouille de leurs proches. Ils racontent avoir enterré des cadavres à la va-vite autour de l'hôpital quand les combats faisaient rage en janvier dernier dans le but d'organiser une cérémonie mortuaire à la fin de la guerre. Le 7 avril, les troupes israéliennes se retirent. Les habitants reviennent, mais ne retrouvent pas les corps. Ils accusent alors l'ennemi d'avoir déterré les cadavres pour effectuer des prélèvements ADN, puis de les avoir jetés dans ces fosses communes. L'armée de l'État hébreu reconnaît avoir cherché des otages parmi les dépouilles, mais nie avoir déplacé les corps. Selon le Hamas, des cadavres ont été retrouvés, pieds et mains liés. Israël dément, des informations impossibles à vérifier, puisque ni l'État hébreu, ni l'Égypte ne laissent de journalistes occidentaux travailler indépendamment à Gaza.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Le Hezbollah annonce lui ce soir avoir lancé des dizaines de roquettes sur Israël. D'après ses explications, c'est en réaction à une frappe des Israéliens qui a fait 2 morts dans le sud du Liban. C'est désormais aux États-Unis qu'il fera trembler les filets. En fin de contrat au Milan AC, le footballeur Olivier Giroud s'est mis d'accord avec le club de Los Angeles. Il le rejoindra cet été et évoluera donc dans le championnat nord-américain. Une nouvelle aventure commence donc pour le meilleur buteur des Bleus, Xavier Monferrand.
Il aurait pu décider de raccrocher, de s'arrêter là après l'Euro avec les Bleus et une dernière saison pleine avec le Milan. 13 buts, 8 passes décisives. Mais à 37 ans, Olivier Giroud voulait un nouveau défi, un dernier peut-être. Voilà pourquoi il a choisi de rejoindre la MLS, le championnat américain, où évolue désormais Lionel Messi. Mais si l'Argentin a choisi Miami, le Français, lui, va mettre le cap à l'ouest et s'engager avec le Los Angeles FC, où il va retrouver un gardien qu'il connaît bien, Hugo Lloris, son ancien capitaine en équipe de France. Olivier Giroud doit s'engager avec le club californien jusqu'en décembre 2025, après 3 ans passés à l'AC Milan, où il a disputé 121 matchs et inscrit 46 buts. L'Euro, au mois de juin, sera donc certainement son dernier tour de piste avec les Bleus, sa dernière compétition et l'occasion de pousser un peu plus loin son record, lui qui est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France avec 57 buts.
Explication de Xavier Monferrand, de la direction des sports de Radio France.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Place à la météo avec Elodie Calac de Météo France.
Une journée froide demain, encore de petites gelées dans l'Est et le Massif central le matin, 4 à 9 degrés près des côtes. L'après-midi, souvent 8 à 13 degrés, jusqu'à 13 à 16 près de l'océan et sur le sud-ouest, 15 à 18 près de la Méditerranée, où vous aurez du soleil toute la journée, avec du vent encore assez fort, Mistral et Tramontane jusqu'à 80 km à l'heure. Partout ailleurs, ce sera bien nuageux, quelques éclaircies tenteront leur chance, mais elles resteront plutôt timides. Les averses seront rares du centre-val de Loire et de la région parisienne vers les côtes de la Manche, la Bretagne et les Charentes. En revanche, du sud-ouest vers les Alpes, le nord-est et les frontières du nord, il faudra composer avec un peu de pluie, puis des averses et du vent. Sur le nord-est, quelques flocons pourront s'inviter dès 300 à 500 mètres le matin et la neige remontera vers 700 à 1000 mètres l'après-midi.